Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi. À la une, la situation se tend davantage au Moyen-Orient. L'Iran frappe plusieurs bateaux américains dans le Golfe. Le baril du Brent atteint les $100. On fait le point dans quelques instants. Après les incendies meurtriers qui ont touché l'Algérie fin août, le pays a lancé un vaste plan de reconstruction des zones sinistrées. Pour Sadek Haït Taïb, l'organisation algérienne pour l'environnement et la citoyenneté, ces constructions doivent être encadrées. Nous l'écouterons. Et puis du football avec le retour du PSG en Ligue des Champions. Ce soir, les doubles champions d'Europe en titre affrontent un adversaire peu connu sur la scène européenne, le Slovan Bratislava. Les Parisiens doivent-ils se méfier? Réponse dans quelques instants. C'est une nouvelle passe d'armes au Moyen-Orient. L'Iran a bombardé des bases en Jordanie et dans le Golfe en riposte aux attaques des États-Unis contre des pétroliers iraniens. Washington menace l'Iran et ses soutiens de nouvelles sanctions. Dans le même temps, inagile, le retour des violences au Yémen fait craindre une nouvelle guerre totale.
Oui, les gardiens de la Révolution ont aujourd'hui affirmé avoir attaqué 2 bateaux américains, 8 pétroliers et 10 autres navires. Plus tôt dans la journée, ils ont attaqué la base militaire américaine d'Al-Azra, qui est en Jordanie, à 100 km à l'est d'Amman. Selon l'armée hijique de l'Iran, ces frappes auraient notamment endommagé les lieux de déploiement des avions de chasse F-35, F-16 et F-15, ainsi que les abris pour avions de combat, je cite. Selon l'armée jordanienne, sur 20 missiles iraniens tirés, 18 ont été interceptés et 2 autres sont tombés dans des zones inhabitées. Cette offensive iranienne a été menée en réponse aux attaques américaines sur 5 pétroliers iraniens dans la région du Golfe ce mardi. Une information confirmée par Washington. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, avait affirmé dans un communiqué avoir demandé aux équipages d'abandonner leur navire avant qu'ils soient touchés. Le gouvernement américain, qui applique un blocus aux ports iraniens, a par ailleurs placé sur sa liste noire mardi l'entièreté du secteur aérien iranien et il menace aujourd'hui de sanctionner toute organisation travaillant avec les compagnies aériennes du pays, dont les principales sont Mahan Air et Iran Air. Dans ce contexte de retour des violences, les négociations diplomatiques restent au point mort.
Et au même moment, le conflit se ravive au Yémen.
Oui, l'Arabie Saoudite a mené une grande frappe au lendemain d'une attaque d'ampleur des houthistes contre le sud du territoire saoudien. Une attaque qui a fait 73 blessés civils selon la coalition dirigée par Riyad. Le Yémen redevient ainsi un terrain d'affrontement par procuration entre les États-Unis qui soutiennent Riyad et l'Iran qui soutient les Houthis. 4 ans après la trêve de 2022, cette flambée de violence ravive le spectre de la guerre qui ravage le pays depuis 2014. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les frappes, appelant les parties à épargner la population civile.
Merci beaucoup, Inès Gilles. Et dans ce contexte, les prix du carburant sont en forte hausse avec la reprise des hostilités en Iran. Le baril du Brent qui a dépassé les $100 le litre ce matin. À la pompe également, en moyenne, le gasoil est à 2,29€ le litre. C'est énorme, 2,12€ le sans-plomb 95. Une réunion s'est tenu justement à Bercy ce matin avec les distributeurs de carburant, avec les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Après les incendies meurtriers de fin août, le gouvernement algérien a présenté un plan en 5 points. Pour rétablir notamment les réseaux, recenser les dégâts, indemniser les victimes, reconstruire les habitations et les infrastructures, mais aussi, surtout, revoir les règles de construction dans les zones forestières. Un dernier volet essentiel pour mieux protéger les populations exposées. Pour Sadek Haït Taïb, de l'Organisation algérienne de l'environnement, de la citoyenneté, il faut surtout désormais encadrer ces constructions.
Bon, comme je vois déjà l'Algérie, qu'on appelle le petit continent, c'est un continent, il est plein de forêts, plein de montagnes, les gens construisent dans des forêts, dans des montagnes. À un moment donné, c'était anarchique, mais maintenant, on doit organiser même la forêt. Pourquoi construire au milieu d'une forêt sans eau, sans électricité, sans route, et dès qu'il y a un incendie, on met la vie des citoyens en danger. Et ça va se faire dans un cadre organisé. Il y a des services urbanisme qui s'en occupent de ça, qui sont bien formés pour ça. Ils vont mettre des règles pour que la construction soit organisée et le citoyen soit en sécurité.
Sadiq Aït Taïeb, est-ce que, au fond, ces incendies révèlent aussi un problème d'aménagement du territoire? A-t-on trop construit dans certaines zones forestières sans suffisamment intégrer le risque incendie?
Non, je crois que les incendies, c'est un phénomène international vu le réchauffement climatique, vu les conditions de la planète de ces dernières années avec la pollution, avec le réchauffement. C'est vrai, peut-être que les dégâts sont désastreux par rapport aux gens qui habitent dans les forêts, mais à mon avis personnel, que c'est dû au réchauffement climatique, c'est dû à des conditions climatiques, beaucoup plus.
Des propos recueillis par Nadia Bencher. Dans le reste de l'actualité au Maghreb, en Algérie, le bilan du violent accident survenu à Tizi Ouzou est très lourd. 10 personnes ont perdu la vie et 12 autres ont été blessées dans un carambolage impliquant un camion semi-remorque et plusieurs véhicules. Les secours ont mobilisé d'importants moyens pour prendre en charge les victimes. En France, la France justement a reçu son bulletin mention, doit se ressaisir. Les résultats PISA sont tombés hier. L'OCDE a dévoilé les résultats du programme international pour le suivi des acquis des élèves de 15 ans. Les scores en compréhension de l'écrit et en mathématiques n'ont jamais été aussi bas, il faut le dire, dans le pays depuis 2000. Yannick Tringans, secrétaire national du Parti socialiste en charge de l'éducation, met en avant les inégalités sociales.
Les inégalités restent très très fortes en France. C'est tellement vrai que par rapport à d'autres pays, ces inégalités sont sans commune mesure. Et que l'écart de performance, et c'est dans le rapport PISA, entre les établissements, il est beaucoup plus important en France que dans la moyenne des pays. Et donc, cela signifie que nous avons un sujet, nous avons une véritable ségrégation en France par rapport aux autres pays. Ça, c'est le premier élément.
Alors, ce sont les inégalités en fonction des territoires, des classes sociales, des différentes composantes de la population. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément?
Bien sûr, ce sont des inégalités qui relèvent avant tout des inégalités sociales. Je vous donne un seul exemple. En sciences, un quart des élèves les plus favorisés devance de 100 points celui des élèves les moins favorisés. Et donc, c'est une valeur qui est un écart qui est très supérieur à celle des autres pays l'OCDE, puisque la différence dans les autres pays, elle est en moyenne entre 80 et 85 points. Là, on est à 100 points d'écart entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés. C'est la même chose en mathématiques et c'est la même chose en sciences. Et donc, on voit bien qu'il y a le sujet de ces inégalités qui pèsent très lourdement sur la réussite des élèves. C'est-à-dire que l'endroit où vous vivez, le milieu d'où vous venez, conditionne pour une très grande part, ça n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais conditionne à la fois votre parcours et votre réussite.
Yannick Trigan, secrétaire national du Parti socialiste en charge de l'éducation et conseiller régional en Île-de-France. Il sera d'ailleurs l'invité de François-Xavier de Calonne dans votre émission plurielle ce soir à 19h. L'actualité également, c'est cette annonce. Le Premier ministre Sébastien Lecornu envisage de réduire la rémunération des ministres, une mesure qui pourrait également concerner les membres des cabinets ministériels. Une démarche d'exemplarité saluée par Gabriel Attal, candidat Renaissance à l'élection présidentielle, qui propose de son côté de réduire le nombre de parlementaires. Il était l'invité ce matin de nos confrères de France Info.
Moi, je crois à l'exemplarité et quand des efforts sont demandés, je pense que c'est important que l'État puisse en faire. Secrétaire d'État à ministre, c'est autour de 9000 euros, oui. Et voilà, donc c'est important qu'il puisse y avoir effectivement probablement des exemples. Moi, je propose de réduire le nombre de parlementaires, ce qui aussi permettrait de faire des économies. Mais c'est d'ailleurs aussi un enjeu de moyens pour les parlementaires dans leur capacité à évaluer l'action du gouvernement, avoir des collaborateurs. Mais voilà, enfin, il y a des efforts qui doivent être demandés parce que la situation budgétaire est celle qu'elle est. Qu'il y ait des mesures qui soient prises pour montrer de l'exemplarité, je ne vois absolument aucun problème. C'est pas ça qui va réduire le déficit et la dette, évidemment. Mais encore une fois, en termes d'exemplarité, je pense qu'il y a toujours des symboles et des messages qu'on peut envoyer.
De son côté, François Ruffin, également candidat à la présidentielle, se dit prêt à participer à une primaire de la gauche et appelle à l'organisation d'un grand débat public. Il était l'invité ce matin de nos confrères de RTL.
Bah écoutez, moi, je suis prêt à y aller. Normalement, il devait y avoir une grande primaire ouverte que je voulais de Poutou à Hollande. Et puis, ils ont eu peur. Ils ont eu peur
qui que
les partis socialistes, Passe Public, Raphaël Glucksmann, ils ont eu peur de perdre ça. Donc ils se sont dit, bon, on va se replier dans notre coin. Bah, moi, je lis leur charte. Je dis, bon, bah, j'ai rien contre ça. Pourquoi pas y aller? Ouais, ça me fait marrer. Je suis prêt à aller sur leur terrain, avec leurs règles, avec leur arbitre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la porte à triple tour, ils la blindent, ils mettent des mines derrière pour pas qu'on puisse rentrer. C'est panique à bord. Moi, je pense que ça ferait du bien. Ça ferait du bien à la démocratie, ça ferait du bien au pays que d'avoir un débat avec Raphaël Glucksmann sur comment on remet de l'argent dans le porte-monnaie des Français, comment on rapatrie de l'industrie dans notre pays, comment on fait pour que les logements payent moins cher dans les budgets. Je pense qu'avoir un grand débat public plutôt que de se replier, vous savez, si aujourd'hui chacun avance dans son couloir, les communistes avec les communistes, les socialistes avec les socialistes, les écologistes avec les écologistes, les insoumis avec les insoumis, il n'y a pas d'espoir de victoire.
Comme ça.
Pardon ?
Pour l'instant, l'histoire s'écrit comme
ça. Je suis là pour bousculer cette histoire.
François Ruffin au micro de nos confrères de RTL. C'est une vidéo particulièrement violente dans laquelle on entend un policier municipal de Carcassonne dans l'Aude tenir des propos racistes et misogynes. Selon les informations du Midi Libre, l'individu qui tient ses propos à officier dans le service d'ordre du Rassemblement National, ayant notamment participé à la protection de Jordan Bardella lors de deux déplacements dans la région. Le policier est aussi présenté comme proche de l'actuel maire RN de la ville. Le parti a réagi aujourd'hui en annonçant la suspension immédiate du policier de ses fonctions bénévoles au sein du parti. Le parquet de Carcassonne a ouvert une enquête. Et puis enfin, en football, début de la première journée de Ligue des Champions. Hier, je vous fais un petit topo des résultats d'hier soir. L'AEK Athènes s'est imposé 1-0 contre les Autrichiens de l'ASC. Belle opération des Anglais d'Aston Villa en Belgique. Victoire 3-2 contre le club Bruges. Dortmund domine Villarreal 3-2. Manchester City, c'est le logiquement imposé à Porto 2-0 grâce à un doublé d'Erling Haaland. Mauvais départ pour Lille, défaite 3-2 à domicile contre les Espagnols du Betis Séville. Le Real Madrid a rempli son contrat avec une belle victoire 2-1 face à l'Inter Milan. Et ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Slovan Bratislava, un nom qui ne parle pas forcément à tout le monde. Mais qui sont-ils? Qui sont ses adversaires slovaques, justement, Slama Darlaoui, les adversaires du Paris Saint-Germain ce soir?
Le Slovan Bratislava, c'est le club le plus titré de Slovaquie. Fondé en 1919, il est basé dans la capitale slovaque, à Bratislava, et évolue dans le championnat national. Son stade, le TN Nepol, peut accueillir plus de 22 000 spectateurs sur la scène européenne. Le Slovan est un habitué. Son plus grand exploit remonte à 1969, avec une victoire en Coupe des Coupes face au FC Barcelone. Un trophée qui reste à ce jour le seul titre européen majeur remporté par un club slovaque. Et surtout, le Slovan domine largement son championnat. Le club reste sur 7 titres consécutifs depuis la saison 2018-2019, une véritable hégémonie sur la scène nationale. Cette saison, le club est entraîné par une figure bien connue du football européen, Yaya Touré, l'ancien milieu de terrain ivoirien, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2009. Côté terrain, le joueur à surveiller sera András Šporár, l'attaquant slovène et capitaine du Slovan, a terminé meilleur buteur du club la saison dernière avec 12 réalisations en championnat. Et pour arriver jusqu'à Paris, les Slovaques ont dû passer par 3 tours de qualification. Ils ont d'abord éliminé les Géorgiens d'Iberia 1999, puis les Suédois de Mielbu, avant de sortir les Slovènes de Tselier en barrage avec une victoire 2-1 au match retour après un nul à l'aller. Un parcours sans défaite qui leur a permis de décrocher leur place dans la phase de ligue. Et ce soir, le Slovan Bratislava défie donc le PSG, double champion d'Europe en titre. Coup d'envoi à 21h.
Merci beaucoup Salma Darlaoui. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Il est 12h14. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera 13h.